Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Comment ça marche, un avocat? Comment choisit-il ses dossiers? Pourquoi accepte-t-il de défendre ce que l'opinion publique appelle des monstres? Dans un livre qui paraît chez Plon et qui s'appelle « Soit je gagne, soit j'apprends », l'avocat Alain Jakubowicz raconte dans quelles circonstances et avec quels états d'âme il est devenu en 2017 l'avocat de Nordal Lelandais, l'assassin présumé de la petite Maïlis et du caporal Noyer. Réalisation signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Tu ne devrais pas raconter ça, Alain. Ben pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Quoi que tu dises, ça te sera reproché. Et puis Alain, on parle pas d'un dossier avant qu'il soit jugé. Enfin, c'est pas ce que tu reproches à la presse. Mais j'ai pas l'intention de parler du dossier. Je veux parler du rôle de l'avocat. Je veux rétablir certaines vérités. Je veux expliquer, pas m'expliquer. Expliquer. Et pourquoi ? Eh ben parce que les gens m'ont écrit des horreurs depuis que j'ai accepté de défendre Lelandais. Des messages du genre « Je vous souhaite le pire, vous et votre famille » ou « Va mourir en enfer avec lui, gros bâtard » ou « Je vous souhaite de mourir d'un cancer généralisé » et même « J'encule ta mère ». Enfin, comment est-ce qu'on peut méconnaître à ce point le rôle de l'avocat ? Pour moi, cette histoire commence banalement par un coup de téléphone, un après-midi de septembre 2017, d'un homme que j'ai récemment fait acquitter devant la cour d'assises.
Ça va, maître ? Bien ? Dites, maître, vous avez entendu parler de la disparition de la petite Maïlis, hein, pendant un mariage ? Bon, voilà, je suis chez les parents de celui qui vient d'être arrêté pour ça. Bougez pas, je vous passe sa mère.
Et il me passe sa mère. Elle veut que je sois l'avocat de son fils. Je lui donne rendez-vous. À ce stade, je n'ai pris aucune décision. Et de toute façon, je ne peux pas prendre ce dossier, d'abord sans avoir rencontré l'intéressé, et surtout sans en avoir parlé aux associés du cabinet. Enfin, mon cabinet est essentiellement un cabinet de droit des affaires. Je ne peux pas accepter un dossier aussi sensible et médiatique sans tenir compte de l'impact que ça aura sur nos clients, qui pour la plupart sont des chefs d'entreprise. Et donc j'organise une réunion interne, et c'est ma fille associée dans le cabinet qui intervient la première.
Je te rappelle que t'as une petite fille qui a le même âge que Maïlis, quand même, hein ?
Ouh, ça fait mal. Non, je n'ai pas oublié.
Enfin, Alain, il faut quand même réfléchir à ce que nos clients peuvent penser de ton intervention dans une telle affaire, non ? D'accord, mais je te rappelle qu'on est avocat. Et par ailleurs, le suspect clame son innocence.
Ouais. Ça
reste à prouver, hein ? Mais bon, puisque tu le sens,
mes associés ont peur. Mais ils me font confiance. Et puis ils me connaissent. Ils subodorent que j'ai déjà pris ma décision. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de défendre cet homme ? Est-ce que c'est parce que me remonte le démon qui travaille tous les avocats ? Seul contre tous. Plus le crime est horrible, plus la tâche est difficile. Et plus elle est difficile, plus elle est exaltante. Je rencontre Nordal Lelandais pour la première fois le 15 septembre 2017 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Pas au parloir avocat, hein. Les détenus savent qu'il est là. Et c'est un monde qui a sa propre moralité, voyez-vous. Vous êtes escroc, trafiquant de drogue, braqueur, voire assassin. Vous êtes accepté, sinon respecté. Mais si vous êtes pointeur, comme ils disent, si vous êtes accusé d'avoir commis un crime à caractère sexuel, alors malheur à vous. Et donc Nordal Lelandais est déjà devenu leur tête de turc. Pour sa sécurité, il ne peut plus croiser personne dans la prison. Résultat, il va être mis au quartier d'isolement, la prison dans la prison. Là où on place les récalcitrants.
En attendant, maître, vous pourrez le voir dans une salle du quartier arrivant.
Je me suis préparé à cette rencontre. Je ne sais pas ce qu'il va me dire, hein, ni même s'il va me parler. Mais s'il me dit qu'il est pour quelque chose dans la disparition de Maïlis, je l'exhorterai de le dire au juge d'instruction. Pour qu'on la retrouve. pour qu'on mette un terme au calvaire des parents. En revanche, s'il me dit « je refuse que vous en parliez au magistrat », alors je serai prisonnier, car mon serment d'avocat m'impose le silence. Ça me hante, ça. Je ne me sens pas capable de plaider l'acquittement d'un homme que je sais coupable. Le mieux serait qu'il ne me le dise pas. C'est hypocrite, hein ? Faut que tu sois solide, là. Faut que tu sois solide. Faut que tu sois professionnel. Quand la porte s'ouvre, je vois un homme massif qui ressemble aux photos parues dans la presse. L'air abruti en moins. La poignée de main est ferme et franche. Asseyez-vous, je vous prie. Il a l'air accablé, les yeux tombants. Il me fait penser à Droupy. Je peux pas vous dire totalement ce qu'on s'est dit, ça appartient à la confidentialité de l'échange entre un avocat et son client. C'est sacré, ça. Et puis, il y a le secret de l'instruction. Là, je marche sur le fil du rasoir. Hein. Bien, monsieur. Peut-être que vous pouvez commencer par me parler de la nuit du drame, hein. De tout ce qui vous est reproché, des éléments qui sont parus dans la presse. Allez-y, allez-y. Je vous écoute. J'ai rien fait, moi. Je suis totalement étranger à la disparition de Maïlys. Vous me croyez, maître, hein ? Moi, mon rôle, ça n'est pas de le croire ou de ne pas le croire. Je dois juste prendre acte de la ligne de défense qu'il me fixe. Il dit qu'il est innocent. Bon, et maintenant, est-ce que cette ligne est tenable ? Pour répondre, il faut que je lise le dossier. Et pour le lire, il faut que j'accepte d'être son avocat. Je pourrais toujours me retirer si le dossier est accablant. Enfin, je pourrais me retirer tant que le fait que je sois son avocat n'est pas encore public. Pour l'instant, la presse n'est pas au courant. En revanche, dès que ce sera rendu public, si je me retire, ça sera interprété comme un aveu. Un aveu qu'à mon avis, il est coupable. Il faut que ça reste secret le plus longtemps possible. Le temps que je lise le dossier. Le secret tient moins de 10 jours. Le 24 septembre, la presse annonce que je suis le nouvel avocat de Nordal Lelandais. Et moi, je choisis le silence. Je retourne le voir à la prison de Saint-Quentin-Fallavier dès le lendemain, le 25 septembre. Bonjour maître. Je vais vous emmener voir votre client. Bon, on l'a installé dans le quartier d'isolement, hein. Vous acceptez de vous y rendre ? C'est-à-dire qu'on pourrait le faire venir au parloir avocat, mais faudrait qu'on bloque toute la circulation dans l'établissement. On aimerait pouvoir s'en passer. Oui, d'accord. Ça ne me pose aucun problème. Mais je vous le dis tout de suite, hein, je veux pas le voir dans sa cellule. Hein. La cellule, c'est trop intime. Bon. Bon, d'accord. Hein. On va vous le mettre dans une petite salle du quartier disciplinaire. Je ne veux pas le voir dans son intimité, mais je sais depuis qu'il a recouvert les murs de sa cellule d'images de moto, qu'il a placé dans un coin une photo de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur et de son neveu, et une autre photo de ses chiens. Me voilà donc en route pour le quartier d'isolement. Et au passage, je serre quelques mains de détenus que je connais.
Hey, ça va, monsieur l'avocat ? Bien ?
C'est par ici, maître. Vous savez, la détention de votre client se passe pas très bien. Hein. Ses voisins de cellule l'insultent toute la nuit, en poussant des hurlements. Mais vous pouvez pas faire quelque chose ?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, maître ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein.
Bonjour, monsieur Lelandais. Comment ça va ?
Bah, c'est-à-dire, maître, j'ai pas beaucoup dormi à cause des hurlements des autres, hein. Et puis, il y a les surveillants qui ouvrent la porte toutes les demi-heures pour vérifier que je me suis pas suicidé. J'arrive pas à dormir.
Je crois bien que c'est à cette occasion, cette deuxième visite, que je commence à le tutoyer. À ma grande surprise, d'ailleurs. Je n'ai pas le tutoiement facile. Je vous vois certains de mes associés depuis des décennies. Et d'ailleurs, je n'aime pas non plus que l'on me tutoie. Mais concernant Lelandais, ça me vient de manière naturelle. Ni par sympathie, ni par mépris. Hein. Je trouve simplement grotesque de le vouvoyer. Il est indispensable que je parvienne, malgré les difficultés, à nouer avec lui une relation de confiance mutuelle. Sans ça, le binôme avocat-client ne peut pas fonctionner. En nous plongeant dans le dossier, avec mes collaborateurs, nous tombons tout de suite sur une irrégularité de procédure. Elle saute aux yeux. Je vous explique. En matière criminelle, la loi fait obligation de filmer les interrogatoires de la personne gardée à vue. L'obligation. Eh bien, les quatre premières heures de l'audition de Nordal Lelandais n'ont pas été filmées. Et donc, les PV d'interrogatoire sont nuls. Je suis avocat, je n'ai pas le choix. Je dois déposer une requête en nullité. Ce que je fais le 30 octobre, sans en parler à personne. Décision le 30 novembre. Et hasard du calendrier, c'est ce jour-là, le 30 novembre, que, pour la première fois depuis qu'il est en prison, Nordal Lelandais est convoqué par la juge d'instruction. Je suis donc en route pour le palais de justice avec ma collaboratrice.
Alain ? Il y a du nouveau, Alain. Une chaîne de télé annonce que Lelandais a été filmé par une caméra de surveillance à Pont de Bonvoisin, à l'heure de la disparition de Maïlys. Ils disent aussi que sur les images, dans la voiture, on distingue une petite forme blanche qui pourrait être une petite fille. C'est pas bon pour lui, hein, ça.
Et comme par hasard, ça sort aujourd'hui. Coïncidence sans doute, ou plus sûrement quelqu'un proche de l'enquête a donné cette information à cette chaîne de télé, en violation du secret de l'instruction. Et la chaîne en fait, c'est chou gras, je vous le dis. Elle va même jusqu'à diffuser une reconstitution de l'image supposée montrer cette forme blanche. Pas la vraie image, une image inventée par eux selon l'idée qu'ils se font des vraies images. Sans les avoir vues, ma collaboratrice et moi, ça nous laisse sans voix. En arrivant au palais, j'apprends que la chambre de l'instruction a annulé les PV d'audition. C'est normal, c'est la loi. Et ensuite commence l'interrogatoire. Il dure toute la journée. Secret d'instruction, je ne peux rien vous dire à ce sujet. En revanche, en sortant le soir, j'apprends que le procureur donne une conférence de presse diffusée en direct. Elle dure 22 minutes.
La disparition de Maëlys a été fixée à 2h45. À 2h46 et 12 secondes, Monsieur Lelandais mettait son téléphone en mode avion. À 2h47, son véhicule est filmé par une caméra de vidéosurveillance du centre-ville de Pont de Beauvoisin. À l'avant du véhicule, une silhouette frêle, de petite taille, qui est vêtue d'une robe blanche, se trouve sur le siège passager avant. À 3h24 et 29 secondes, le véhicule est de nouveau filmé en sens inverse par cette caméra vidéo, dans le sens du retour. Le conducteur est alors seul dans la voiture.
L'article 11 du Code de procédure pénale dit que le procureur peut rendre public certains éléments de la procédure. Mais là, enfin, il fait une lecture subjective de l'affaire. C'est une atteinte à la présomption d'innocence et au droit de la défense. Le procureur dit que la disparition de l'enfant est survenue à 2h45 du matin. Mais il y a des témoignages qui disent, je les ai vus dans le dossier, qu'elle a été vue au mariage après 2h45. Et par ailleurs, les vidéos que nous avons vues ne montrent absolument pas dans la voiture une silhouette frêle vêtue d'une robe blanche. On n'y voit même pas un humain, encore moins une fillette, et pas non plus de robe blanche. La mise en condition du public et des futurs jurés a commencé, du fait du procureur. Et à partir de là, les réseaux sociaux se déchaînent. Et des spécialistes se succèdent sur les plateaux pour parler d'un interrogatoire auquel ils n'ont pas assisté, et d'une vidéo qu'ils n'ont pas vue. Le tout agrémenté d'images reconstituées sans jamais se demander si elles correspondent à la réalité. Une curée ! Et pour moi, l'abyssal sentiment d'une impuissance. Mais est-ce que pour autant je dois parler ? On me sollicite, hein, bien sûr. Je choisis de réagir sur une seule chaîne, celle qui diffuse cette vidéo, parce que j'y connais une journaliste et que je la respecte. Et bien sûr, en début d'interview, elle diffuse un extrait de la conférence de presse du procureur.
L'enfant enlevé 2h46, 2h47, le téléphone est sur le mode avion et votre client reviendrait seul à 3h24 au mariage.
Eh oui. Ça, c'est l'interprétation qui a été donnée, qui a été jetée en pâture aux Français. Il n'y a qu'à voir les titres le lendemain, les preuves accablantes. Nordal Lelandais est coupable. Il ne reste plus finalement qu'à appuyer sur un bouton pour qu'il soit condamné. Ce n'est pas le dossier Rutel-Krieff.
Qu'est-ce que vous avez de différent, alors ?
Ce n'est pas le dossier Rutel-Krieff. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, et je le dis à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas le dossier.
Je dis aussi que des témoins ont vu la petite fille dans la salle à 3h du matin. Et je hausse le ton. Et je marque mon indignation. Oui, je m'indigne du procédé qui consiste à reconstituer une image en laissant croire qu'elle est issue du dossier. Oui, je dis qu'il est impossible de voir dans cette silhouette un enfant en robe blanche. Mais c'était la réalité. On me l'a reproché, tout ça. Et on m'a opposé la triste réalité qui apparaîtra dans quelques mois. Mais ce jour-là, c'est ce que j'ai vu sur cette vidéo. La vraie. Évidemment, je parle de tout ça avec Nordal Lelandais. Même si sa mère m'a prévenu.
Vous savez, il parle pas beaucoup, hein, Nordal.
Et les médicaments qu'on lui donne en détention n'arrangent rien. Il est passif, accablé, résigné, très loin de la tête brûlée que décrivent les médias. Alors qu'un homme qui se dit innocent devrait se révolter, s'indigner. Et moi, je me demande qui il est. Est-ce qu'il est le garçon respectueux qui n'a aucun problème avec les surveillants de la prison ? Celui qui répond à la juge d'instruction par « oui, madame, non, madame, poliment ». Ou alors est-ce le marginal inquiétant, le fêtard violent dont parle la presse ? Qui manipule qui ? C'est avec son accord, bien sûr, que j'ai rompu le silence et que je suis allé à la télé.
Pas de problème, maître, hein. Faites comme il faut.
Alors qu'à ce moment-là, il savait que c'était bien sa voiture qu'on voyait sur la vidéo et que c'était bien Maïlis qui était sur le siège passager. Il aurait pu me le dire. N'y allez pas, maître. Le procureur a raison. Il m'a laissé aller à Canossa, comme on dit. Il m'a laissé aller m'humilier devant l'ennemi. Mais moi, j'étais son avocat et j'ai fait ce que je devais faire à ce moment-là. C'est également avec son accord qu'ensuite je retourne au silence.
Maître, je crois que c'est mieux qu'on parle pas de moi. C'est pour ma famille.
Eh oui. Son père a été violemment pris à partie alors qu'il faisait ses courses au supermarché. Son frère ne trouve plus de travail à cause de son nom. Sa sœur a été menacée. Et sa mère, victime d'un accident, a dû se faire hospitaliser sous son nom de jeune fille. Je leur recommande d'ailleurs de ne plus parler aux médias, mais régulièrement, ils se font piéger. En vérité, Nordal Lelandais m'apparaît comme une sorte de paumé, fruit de notre époque et de notre société, qui ne s'intéresse qu'à ses chiens et à ses motos et à rien d'autre. Il a 34 ans et tout ce qu'il a fait a échoué. Ses chiens sont ses seuls compagnons. Il a tenté de vivre avec des femmes, mais ça n'a pas marché. Et sans travail, il a dû retourner chez papa-maman. Et ses relations sociales se résument à la recherche de partenaires sexuels sur les réseaux sociaux. Ça, j'avoue que je suis effaré par le nombre de rencontres qu'il a collectionnées comme ça. En quelques clics, pour se retrouver dans une voiture avec une femme dont il connaît à peine le prénom. Il allait à ses rendez-vous comme d'autres vont à la pêche ou au foot. J'ai parlé de ça avec lui. Nordal, t'as connu le plaisir de ce qu'on appelle la séduction ? J'ai vite compris que c'est un langage qu'il ne comprend pas. T'as connu, je sais pas moi, le dialogue, le partage, la galanterie, l'attente, le désir, le respect. Tout ça pour lui, c'est un concept vintage. La journaliste qui m'a interrogé à la télévision m'a demandé pourquoi, du coup, je n'ai pas demandé la remise en liberté de mon client. Puisque, selon moi, la thèse de l'accusation ne tient pas. Et d'ailleurs, lui-même, au début, m'a demandé si c'était possible. Maître, puisque je suis innocent, vous croyez pas que c'est possible que je sois libéré ? Non, non. Honnêtement, je crois pas que ce soit envisageable. À ce moment-là, il y avait trop d'indices contre lui. Demander sa mise en liberté était voué à l'échec et inopportun. Mais là, la prise de parole du procureur change tout. Il dit que Maïlys a disparu à 2h45. Mais au vu des témoignages, ça ne tient pas. Et puis si Maïlys a été vue sur le lieu du mariage à 2h45, elle ne pouvait pas se trouver dans la voiture de Nordal Lelandais à 2h47. Les accusations du procureur s'effondrent. Et d'un coup, tout le reste devient accessoire. Et donc, nous nous attelons à une demande de mise en liberté, en démontrant qu'il est impossible que Maïlys ait disparu à 2h45. Sauf à imaginer que les témoins mentent, qu'ils se trompent, ce qui est improbable. Cela dit, je ne veux pas faire cette demande pendant les fêtes de Noël. Ça serait trop douloureux pour la famille de Maïlys. Alors j'attends début janvier et je dépose ma demande. Et comme je m'y attendais, c'est reçu comme un sacrilège. Mais ma réponse est le dossier, tout le dossier, rien que le dossier. L'audience est fixée au 8 février. J'ai demandé que Nordal Lelandais soit présent. Je veux que les magistrats et mon confrère de la partie civile le voient. Et je veux aussi que lui entende la parole de l'avocat général et de l'avocat des parents de Maïlys. L'audience est digne. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce qu'on me donne raison. Mais je veux prendre date. Je veux, comme j'aime bien dire, remettre l'église au milieu du village. Même si, entre-temps, il y a eu du nouveau. Le 18 décembre 2017, je reçois un appel de la gendarmerie.
Maître Jakubowicz ?
Oui, c'est moi.
Dites-moi, je vous appelle parce que votre client Nordal Lelandais vient d'être placé en garde à vue dans le cadre d'un dossier instruit à Grenoble. Et donc il requiert votre présence pour l'assister.
Une autre affaire, donc. Mais de quoi ? Je prends tout de suite la route et je le découvre en écoutant France Info.
Nordal Lelandais, déjà mis en examen dans l'affaire de la disparition de la petite Maïlys, à Pont de Bonvoisin, dans l'Isère, vient d'être placé en garde à vue dans une deuxième affaire. Il est maintenant suspecté d'avoir tué un jeune militaire, un caporal, qu'il aurait pris en stop au mois d'avril dernier.
J'arrive à la gendarmerie, je parviens à éviter la presse, et avant que son interrogatoire de garde à vue commence, je m'entretiens avec Nordal Lelandais. Une rencontre glaciale. Il ne me semble pas du tout paniqué, mais seulement abattu. Et moi, à ce stade, je n'ai pas eu accès au dossier. Et donc, je découvre les faits qui lui sont reprochés au fur et à mesure des questions posées par le juge. Le caporal disparu s'appelle Noyer.
Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Je vous assure, hein. Rien du tout.
À l'issue, il est présenté au juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat. Ce qui veut dire d'abord que le juge pense que le caporal Noyer est décédé et que par ailleurs Lelandais l'aurait tué avec préméditation. Quand je découvre le dossier, je me demande bien d'où il sort ça. Certes, son téléphone a borné au même endroit que celui du caporal, mais rien de plus. Et voilà comment je me trouve entraîné
dans un second dossier. La presse, évidemment, s'en donne à cœur joie, et pour cause. On a changé de registre, et ça permet de jouer à faire peur. La France a désormais un nouveau tueur en série, et les commentateurs se succèdent à nouveau sur les plateaux pour discourir pendant des heures sur un dossier dont ils ignorent tout, et sur un homme qu'ils ne connaissent pas non plus, mais qui présente, selon eux, toutes les caractéristiques du tueur en série. La question n'est plus de savoir s'il est coupable des deux crimes dont on l'accuse, mais de combien d'autres il est l'auteur. Parole de spécialiste, on finira par en trouver un troisième, car il faut trois crimes minimum pour être un serial killer. Et moi je suis emporté par ce tsunami, et je ne peux rien dire et rien faire, parce qu'il n'y a rien à dire et rien à faire. Pour être honnête avec vous, à ce moment-là, je songe à refuser ce deuxième dossier. Le premier, je l'ai accepté, mais celui-là, il m'est imposé. On en parle au cabinet. Ouais, mais Alain, c'est pas cohérent du tout, enfin, de rester l'avocat dans l'un et pas dans l'autre. D'accord. Un avocat ne quitte pas le navire dans la tempête. Dans l'affaire Maïlis, ma collaboratrice débarque dans mon bureau, livide. Alain, on vient de recevoir de nouvelles pièces qui viennent d'être versées au dossier. C'est un rapport d'expertise scientifique. Ce rapport, je le lis. On a trouvé une minuscule tache de sang dans le coffre de Nordal Lelandais. Et ce sang est celui de Maïlis. On se regarde avec ma collaboratrice, en silence. Et là, des larmes me montent aux yeux. Je me sens seul, terriblement seul, face à un obstacle que je me sens incapable de surmonter. Ça n'est pas à Nordal Lelandais que j'en veux. C'est à moi. J'ai présumé de mes forces. J'ai commis le pire péché pour un avocat. L'orgueil. Je suis entré dans ce dossier pour faire triompher la vérité, seul contre tous. Et c'est la vérité qui triomphe de moi. Et je me retrouve seul contre tous. Le roi est nu. Échec et mat. À ce moment-là, je n'ai qu'une envie, tout envoyer balader. Mais je ne peux pas partir. Je ne dois pas partir. Je dois boire le calice jusqu'à la lie. Le lendemain matin, je vais à la maison d'arrêt avec en poche le rapport d'expertise qui me brûle les doigts et qui torture ma conscience. Ça doit se lire sur mon regard. Il comprend tout de suite que quelque chose de grave est arrivé. Un long silence s'installe. Et moi, je ne sais pas trop quel ton employer. La manière forte, ça ne servira à rien. Je dois rester professionnel, coûte que coûte. Bon, Nordal, voilà. J'ai dans les mains un rapport de la police scientifique. On a trouvé une tache de sang dans ta voiture. Et ce sang est celui de Maïlis, Nordal. Il a les yeux humides, le teint blafard. Il me regarde sans me voir. Il a compris que la partie était terminée et qu'il avait perdu. Et là, il prend son visage entre les mains et il pleure. Je pense que tu as compris la situation, Nordal.
Oui.
Est-ce que tu sais où est le corps de Maïlis?
Oui.
Tu serais capable de le retrouver?
Oui, je crois.
Et là, je ne lui laisse pas le choix. D'autres auraient sans doute proposé une stratégie différente, mais persister à nier est suicidaire. Quand je vais sortir, Nordal, je vais appeler la juge d'instruction. Je vais lui dire qu'il faut qu'elle te réentende, de toute urgence. Et toi, tu devras reconnaître devant elle que tu as tué Maïlis. Et que tu acceptes de l'accompagner où tu l'as mise. On est d'accord, Nordal?
Oui.
Et pour aujourd'hui, C'en est assez. Le temps viendra où il devra donner des explications, mais là, il en est incapable. Et moi aussi. Arrivé sur le parking, je reste prostré un moment dans ma voiture, et puis je compose le numéro de la juge d'instruction. Mais elle est absente, c'est un de ses collègues qui décroche. Dites, j'ai pris connaissance des derniers éléments du dossier. J'ai rencontré mon client ce matin, je sors de la prison là. Vous pouvez faire passer un message à la juge qu'il souhaite être entendu, hein, dans les plus brefs délais.
Ah mais le problème c'est qu'elle est en vacances. Donc elle vous convoquera dès son retour. Hein.
Non, ça ne peut pas attendre.
Bon, ben, je vais tenter de la joindre, je vous rappelle.
Ils ont compris. Nous sommes convoqués demain. Et donc, le 14 février, nous prenons avec ma collaboratrice la route de Grenoble, en sachant que la journée sera longue et pénible. Quand on arrive au palais de justice, je demande à m'entretenir avec mon client. On est d'accord, Nordal, hein ? On fait comme on a dit hier. Tu reconnais que tu as tué Maïlis et tu dis à la juge que tu es prêt à la conduire là où se trouve le corps. On est d'accord ? Ouais. D'accord, maître. Et c'est ainsi que devant la juge, en larmes, il reconnaît qu'il a tué Maïlis. Vous êtes d'accord pour nous conduire à l'endroit où vous avez abandonné le corps, monsieur ?
Oui, madame.
Bien. Maître, nous allons donc organiser un transport de justice, hein. On partira de la gendarmerie de Bonvoisin, où je vous invite à vous rendre tout de suite. Et à partir de là, nous allons suivre le trajet parcouru par votre client le soir du drame, depuis la salle des fêtes où se déroulait le mariage, jusqu'à l'endroit où il a abandonné le corps de l'enfant. C'est entendu ? Sur place, les gendarmes ont pour mission d'éloigner les journalistes. Mais en écoutant la radio, je m'aperçois vite qu'ils sont informés au fur et à mesure. Sans doute par une personne proche du dossier. Et donc, une longue procession se lance, précédée par des motards qui bloquent les carrefours. Nordal Lelandais est dans la première voiture. C'est lui qui montre la voie. Et il collabore. Il répond aux questions, il explique par où il est passé, ce qu'il a fait, où il s'est arrêté. On roule, on s'arrête, on repart. Et moi je me dis, et s'il menait tout le monde en bateau, pourvu qu'il trouve l'endroit. Alors je lui parle, je l'encourage. Manifestement, il veut y arriver. Et à un moment, on se retrouve bloqué par la neige.
Bon, c'est pas praticable, hein. Il faut faire venir un engin de déneigement. Ça va prendre un peu de temps, hein.
On attend, et l'engin finit par arriver. Et la progression reprend.
Je suis certain que c'est là. Sur le sentier, là.
Mais à quel endroit précis ? Ça s'est passé en été. Et avec la neige, ça n'a plus rien à voir. Il s'arrête un bon moment au bord d'une pente boisée. Il hésite. Il est tenu en laisse avec ses menottes par les gendarmes. Il fait 10 mètres vers le haut, puis vers le bas, puis encore vers le haut. Et puis il descend la pente, il bifurque vers la gauche, il passe sous les arbres. Il s'arrête près d'un rocher, il cherche. Il tourne la tête à droite, à gauche. Il se baisse. Il balaye le sol de la main. Et il se relève comme s'il sentait les lieux.
C'est là.
Tu es sûr, Nordal, hein ? Tu en es sûr ?
Ouais, c'est là.
Je veux tellement qu'on découvre cet enfant, tellement. Les gendarmes fouillent superficiellement. Rien.
Bon, compte tenu de l'état du sol et de leur avancée, on va suspendre les recherches pour ce soir.
Sur le chemin du retour, Nordal Lelandais s'effondre en larmes. Attention, hein. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur mon propos. Mais c'est simplement ce qu'il fait. Pleurer. Chacun peut le voir. Et il n'y a pas besoin de l'interpréter. Moi, je rentre à pied. Ça a été une journée éprouvante. J'ai marché à l'endroit où se trouvent les restes d'une petite fille de 9 ans qui a été tuée par l'homme que je défends. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de silence. Arrivé à ma voiture, je tombe sur le procureur de la République.
Ah, maître, je voulais vous prévenir. Je vais faire une conférence de presse.
C'est normal qu'il s'exprime. Mais moi, je ne le ferai pas. Je n'en ai ni le courage, ni la force. Et d'ailleurs, que dire ? Nous reprenons la route de Lyon. Et à la radio se déroule le procès en direct de Nordal Lelandais. Et moi, je me dis, dans l'adversité et la détresse, la défense doit rester debout. L'homme que je suis est anéanti. Mais l'avocat n'en a pas le droit. Cette schizophrénie professionnelle m'habite depuis toujours. Et je crois que ce soir, elle est à son paroxysme. Nous écoutons en direct la conférence de presse du procureur.
Bon, demi-tour. On va à la mairie de Pont-de-Bonvoisin, où ça se déroule. Finalement, je vais parler.
Et c'est en arrivant que je l'apprends.
Maître, on a retrouvé les restes du corps de la petite Maëlys.
L'endroit désigné par Nordal Lelandais était donc exact. Il a dit la vérité. Et ça me rassure, autant que ça me terrifie. Les journalistes sont là, mais moi je ne sais pas quoi leur dire. Alors je parle. Trop.
Dans ces conditions, maître, vous resterez l'avocat de Lelandais ?
Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai aidé à dire où se trouvait Maëlys. S'il ne l'avait pas dit, je crois que je serais parti. Car ce dont on l'accuse me fait horreur. Mais je ne défends pas sa cause. Je défends un homme. Comment vont réagir tous ceux qui croyaient à son innocence ? Ses parents, son frère, sa sœur. Sa mère et sa sœur ont beaucoup de difficultés à accepter la réalité. Mais pas question pour elles d'abandonner leur fils et leur frère. Pour elles, c'est terrible. Mais elles vont le voir à la maison d'arrêt. C'est le seul lien qui rattache Nordal Lelandais à la vie. Le dernier soutien moral qui lui reste. Et en écoutant la radio vers 22h,
Nordal Lelandais a été extrait de sa cellule. Il a quitté le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier pour être conduit vers un lieu indéterminé.
Ses parents m'appellent, évidemment.
Allô, maître ? On vient d'entendre à la radio. Vous savez où ils l'ont emmené ? Qu'est-ce qui se passe ?
Et comme personne ne m'a prévenu, je décide d'appeler le procureur sur son portable.
Ah, écoutez, je ne sais pas moi-même où il est. Il s'est peut-être évadé, maître.
Ça me fait rire. Et je comprends qu'il est vexé de ne pas savoir. Je comprends surtout que ses relations avec les juges d'instruction ne sont pas des plus cordiales. En vérité, Nordal Lelandais, qui était dans un sale état à son retour à la prison, a été hospitalisé à l'UHSA de l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Lyon. C'est une prison dans l'hôpital. Les médias ont dit que c'était moi qui l'avais demandé. C'est faux. C'est l'équipe médicale de la prison qui l'a décidé. Et c'est donc là que je lui rends visite au début de la semaine suivante. On se retrouve dans une salle vaste et claire. Il a l'air complètement drogué. Il est là assis devant moi, droit, figé, l'air hagard. Il me fixe sans me voir. Il a les deux mains calées sous ses cuisses. Et dans ma tête, je revois les images de vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Milos Forman. Aucune discussion n'est possible aujourd'hui. Alors je me lève, et en partant, je me surprends à lui adresser une petite tape sur l'épaule. Je pense pas que je me serais souvenu de ce geste anodin. Mais c'est lui qui me l'a rappelé, à ma visite suivante.
Merci, maître. Ça m'a fait du bien, vous savez, ce geste.
Un instant d'humanité. Dieu que l'homme est complexe. Le lendemain, Nordal Lelandais est à nouveau entendu par les juges d'instruction. Mais il est hébété, il a la bouche pâteuse, il est manifestement gavé de médicaments, il n'est pas en état de répondre à la moindre question. Et puis au cours des semaines suivantes, peut-être grâce au suivi psychiatrique, il commence à parler. Même évoquer les faits devient plus facile. Et c'est pile à ce moment-là que l'enquête sur le meurtre du caporal Noyé avance enfin. Dans cette affaire, les gendarmes ont déjà retrouvé le corps. Mais jusque-là, Nordal Lelandais a toujours nié l'avoir tué. Il a reconnu qu'il l'avait pris en stop, mais rien de plus. Et là, il est convoqué pour un nouvel interrogatoire. Et moi, en préparant l'entretien avec lui, je sens qu'il est prêt à reconnaître qu'il l'a tué. Alors le lendemain, avant d'entrer dans le bureau du juge de Chambéry, je vérifie qu'il n'a pas changé d'avis.
« Ben non, maître. Je vais pas changer d'avis. Je vais faire comme on a dit. »
Et il le fait.
« Et vous acceptez, monsieur Lelandais, de nous conduire là où vous avez abandonné son corps ?»« Ouais, ouais. J'accepte. »
Dans la mesure où on a déjà retrouvé les ossements du caporal, il s'agit juste de vérifier qu'il dit vrai. Un nombre impressionnant de voitures de gendarmerie est mobilisé, précédé de motards qui ouvrent la voie. Et suivi, bien sûr, par une cohorte de journalistes. Je refuse qu'on couvre la tête de Nordal Lelandais. Je ne sais pas pourquoi ces images évoquent pour moi le lynchage, la peine de mort. Quoi qu'il ait fait, un homme n'a pas à se cacher. Il doit assumer et affronter les regards. Le trajet donné par Lelandais correspond à celui de son téléphone portable et à celui du caporal Noyé la nuit des faits. À un moment, il fait arrêter le convoi.
Stop ! C'est par là.
Et il explique ce qui s'est passé, ce qu'il a fait ensuite. Et ensuite, nous reprenons la route. Et il nous amène à l'endroit où, au mois de décembre dernier, des promeneurs ont retrouvé les ossements du caporal. Voilà. Il a reconnu les faits. Et moi, je reste convaincu que c'est grâce au travail des psychologues et des psychiatres de l'hôpital du Vinatier. Et pourtant, on décide que son hospitalisation n'est plus nécessaire. Je le regrette. On le prive d'un suivi médical dont il a grand besoin. Comme dans toutes les affaires criminelles, Nordal Lelandais est soumis à une expertise psychiatrique et psychologique. Les psychiatres et les psychologues doivent dire s'il souffre de pathologie, si son discernement a été altéré ou aboli au moment des faits. J'avoue que la manière dont ces expertises se déroulent a toujours été pour moi un mystère. Les experts doivent être sacrément doués pour arriver à diagnostiquer des pathologies et à asséner des vérités péremptoires, après avoir passé pour certains quelques minutes et pour d'autres quelques heures avec l'intéressé. Nordal Lelandais m'a dit que pour lui, ça a duré 20 minutes. Il dit qu'il n'a pas pu placer un mot en dehors des réponses aux questions. Ça me fait penser à l'expert psychologue de l'affaire Doutreau qui avait dit « Quand on paye des expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femme de ménage. » Et puis je me suis souvent demandé comment sont rédigés les rapports de ces experts. Quand ils sont deux ou trois experts, comment font-ils pour être toujours d'accord? Un jour, l'un de ces psychiatres de renom m'a raconté que ça se finissait souvent comme ça. « Bon, je te suis cette fois. Tu me suivras la prochaine, hein ?» Genre renvoi d'ascenseur. Je vais voir Nordal Lelandais quelques jours après son retour à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Il a retrouvé le quartier d'isolement et les insultes. Je le trouve abattu, abruti par les médicaments et par les heures passées devant la télé.
Ça va, Nordal ? Comment est-ce que tu passes tes journées ? Bon, je regarde la télé.
Et bien sûr, tu regardes les émissions qui te sont consacrées, n'est-ce pas?
Bah oui. Tu devrais plutôt lire, Nordal. T'as déjà lu des livres? Ouais, j'en ai lu trois.
Lesquels?
Bah d'abord, La véritable histoire du Bouddha. Je suis tombé dessus dans la chambre de ma sœur. J'ai toujours été attiré par le bouddhisme.
Et t'as aimé ?
Ouais.
Et puis quoi encore ?
Ah bah Charlie et la chocolaterie. On devait le lire à l'école. Moi, j'ai bien aimé.
Et le troisième livre ?
Un livre sur l'affaire Patrick Dils. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de la prison.
Il me demande régulièrement combien il risque, quelle peine. Alors un jour, je lui dis...
Tu vois, Nordal, tu sortiras quand t'auras mon âge, à peu près.
Alors ça veut dire que vous serez pas là quand je sortirai ?
Une autre fois, je rentre du Sénégal.
Maître, j'ai eu sacrément peur que votre avion tombe,
Une autre fois encore, au lendemain d'une soirée télé où on avait beaucoup parlé de lui et de moi.
Je suis énervé, Surtout pour vous, maître. Pour ce qui a été dit sur vous.
Chacun fera ce qu'il voudra de ça. Mais quand on voit un homme pendant des mois et des années, dans quelques mètres carrés, on se retrouve dans une relation humaine. C'est la différence qui existe entre ceux qui ont un avis définitif sur un homme qu'ils n'ont pas vu et un avocat qui passe des centaines d'heures avec lui. Même si moi, j'ai toujours veillé à maintenir une distance. Les juges attendent l'été pour procéder à la reconstitution de la mort de Maïlys, pour qu'elle se déroule dans les mêmes conditions que le soir des faits. Ils sont là, avec leur greffière, le procureur, les parents de Maïlys, leur avocat, et puis des experts, et beaucoup de gendarmes, et aussi des figurants.
Bien. Monsieur Lelandais, est-ce que vous acceptez de refaire les gestes, c'est-à-dire de jouer votre propre rôle, ou est-ce que vous voulez être représenté par ce qu'on appelle un plastron, c'est-à-dire un figurant ?
Je le convainc de faire face. Il accepte. Dans la voiture, un mannequin de tissu est installé sur le siège passager. Et lui est au volant. Et la scène est filmée.
Bien. Monsieur Lelandais, vous allez refaire les gestes que vous avez faits le soir du drame. Attention. Top départ.
Et là, je suis interloqué. Comme sans doute tous ceux qui sont là. Je n'imaginais pas qu'on puisse porter des coups d'une telle violence. Je suis tétanisé. Et je pense aux parents qui sont là, à quelques mètres. Je ne veux pas croiser leurs regards. Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Et peut-être d'ailleurs parce que j'en ai trop dit. Et j'accepte par avance tous les reproches qui me seront faits. Mon but n'est pas d'humaniser celui qu'on présente comme un monstre. Et pas non plus de plaider avant l'heure. On m'a tellement demandé pourquoi j'avais accepté ce dossier. Pourquoi vous, maître ? Pas vous, maître. J'avais besoin de l'expliquer. Pas de m'expliquer, l'expliquer. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la fonction de l'avocat. J'en ai entendu des inepties à ce sujet et des insultes. Et des gens qui disent... Mais pourquoi diable l'avocat du procès Barbie, du procès Touvier et du procès Papon, le défenseur des droits de l'homme, est devenu l'avocat de Nordal Lelandais ? C'est à eux que je m'adresse, pour leur expliquer que c'est le même avocat qui, après 40 ans de métier, a toujours la même passion, le même amour de la barre, la même combativité, la même foi en la justice. Il n'y a pas d'avocat des bonnes causes et d'avocat des mauvaises. Il n'y a pas non plus d'avocats des accusés et des avocats des victimes. À ceux qui veulent diviser, je dis toujours, je suis avocat. Ma robe est la même, quelle que soit la cause ou l'homme que je défends. J'ai tiré cette histoire du livre d'Alain Jakubowicz chez Plon, « Soit je gagne, soit j'apprends ». Une histoire en deux épisodes. Le premier épisode est d'ores et déjà disponible sur votre application de podcast.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.